Lors du tête-à-tête avec le président du Rwanda à l'Élysée la semaine passée, le président Emmanuel Macron a déclaré à propos de la RDC que la France soutenait l'initiative prise par le président de l'Union africaine, Paul Kagame, en lien étroit avec le président de l'Angola, João Lourenço. En réaction, le gouvernement congolais, qui s'étonne que l'on puisse parler du Congo sans les Congolais, réclame des explications au propos du président français. Entre-temps, au cours de son entretien hier avec le président français, le président angolais a plaidé pour la tenue des élections cette année en RDC. Il appelle au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et demande au président Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Quelle analyse faire de ces déclarations? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Aimé Kilolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du parti politique UDECO et cadre de la majorité présidentielle et aussi expert en droit international. Honorable Christian Mwando, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national et président du parti politique UNADEF, aussi secrétaire général adjoint d'Ensemble pour le changement, plateforme politique de l'opposition, dirigée par Moïse Katumbi. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa, et aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus, et merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC réagit au propos du président français Emmanuel Macron, tenu le 23 mai dernier, à l'issue de la visite dans son pays du président rwandais. La France soutenait l'initiative prise par le président de l'Union africaine en exercice, Paul Kagame, en lien étroit avec le président d'Angola, João Lourenço, avait affirmé le numéro 1 français. Qualifiant ses propos d'ambigu, Kinshasa réclame des explications. S'exprimant hier à Kinshasa au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la RDC est jalouse de sa souveraineté et ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt en Afrique ou hors du continent, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Innocent Olenga pour les détails.
En attendant des clarifications et des explications sur les propos d'Emmanuel Macron, les gouvernements congolais rappellent, déclare Lambert Mende, que l'égalité souveraine des États proclamée par la Charte des Nations Unies est un principe intangible, un horizon indépassable des relations internationales et un dénominateur commun dans les relations entre tous les États. En vertu de ces principes, ajoute Lambert Mende, aucun État n'a le droit de s'arroger unilatéralement ou via des arrangements ou des alliances particulières une responsabilité sur les destin de notre État. Selon les porte-parole du gouvernement, je les cite, les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêts extérieurs dans le but de promouvoir des besoins stratégiques des groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires dont certains ont par ailleurs déchiré de manière ostentatoire et sans sourciller les brevets de la démocratie dans leur propre pays ne saurait en aucune manière nous intimider ou avoir raison de notre détermination à poursuivre les combats engagés par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs appétits voraces. Fin des citations.
Merci Nonsan Lenga. Les sujets régionaux ont justement été abordés par les présidents français et angolais hier à l'Élysée. Emmanuel Macron a salué le rôle joué par le nouveau président angolais, João Lourenço, dans les situations difficiles que traverse cette région. Deux pays de la région ont été nommément cités par le numéro 1 français, la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Si la France promet son appui aux initiatives qui proviendraient des pays de la région dans le dossier congolais, l'Angola réitère son message relatif à la tenue des élections en RDC auxquelles le président Kabila ne devrait pas participer. Pelé Kipela Mondo.
Sur la RDC, nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté. La déclaration est d'Emmanuel Macron. S'exprimant devant la presse à l'issue du tête-à-tête avec son homologue angolais, le numéro 1 français a ajouté qu'il souhaite que les réunions prévues dans les prochaines semaines permettent d'aboutir à un résultat clair. guerre. Le président Lourenço sait le plein soutien de la France et notre engagement en la matière, a-t-il dit. De son côté, le président angolais a indiqué que son pays conseille le respect des accords en RDC. On n'a pas la prétention d'intervenir dans les affaires internes d'un pays. Nous conseillons seulement, nous montrons le bon chemin, le respect des accords qui disent qu'il doit y avoir des élections et aussi que l'actuel président ne doit pas postuler, a affirmé João Lourenço. D'après lui, je le cite, le pouvoir politique doit créer un environnement favorable pour la réalisation des élections, fait des citations et d'ajouter, on ne veut pas qu'après les mois de décembre, on dise que les élections se sont réalisées dans un climat qui n'a pas satisfait la grande majorité. Cela pourrait engendrer un climat de déstabilisation dans la région.
Merci Péliki Pelamondo. Maître Aimé Kilolo, vous êtes secrétaire général du parti politique UDECO, cadre de la majorité présidentielle et aussi expert en droit international. Vous avez suivi les différentes déclarations. Qu'est-ce qui inquiète ou de quoi la RDC a-t-elle peur?
Eh bien, je ne saurais évidemment répondre pour le compte des autorités établies de la RDC, mais je voudrais tout de même dire ceci. J'entends des chefs d'État africains discuter de la problématique des élections en République démocratique du Congo. Il est important de rappeler que les relations entre les États sur la scène internationale est régie par un certain nombre de textes au niveau international. Il y a des instruments juridiques. C'est d'abord la Charte des Nations Unies, en son article 2. C'est aussi la résolution 2625 de l'Assemblée générale des Nations Unies datant de 1970. C'est aussi la Charte de l'Union africaine en son article 4. Mais c'est aussi un certain nombre d'arrêts qui ont été rendus par la justice internationale, en tout cas par la Cour internationale de justice dans une affaire Nicaragua. Et aujourd'hui, les instruments internationaux dégagent deux principes essentiels. Le premier principe, c'est de dire pas d'immixtion dans les affaires intérieures d'un État étranger. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout ce qui porte sur le choix par un État de son système politique, système économique, système culturel. Il faut évidemment dire d'emblée que la problématique de l'organisation des élections et de sa mise en œuvre relève des affaires intérieures d'un État. Il faut d'ailleurs dire que ce principe est aussi le corollaire de ce grand principe international qui est le respect de la souveraineté des États, qui veut donc dire que aucun État ne peut être soumis en tant que tel à la volonté d'un État étranger. Ça veut donc aussi dire que l'exercice de l'impérium sur l'espace territorial de la République démocratique du Congo ne peut être exercé que par les autorités légalement établies. Le deuxième principe important, c'est de dire aussi, et là je rebondis dans ce contexte général sur le commentaire de l'ancien diplomate américain Herman Cohen, pour dire que le principe en droit international, c'est aussi une interdiction absolue de recourir à la menace ou à la force pour régler des différends internationaux ou des problèmes internationaux entre différents États. C'est d'ailleurs le principe de l'intégrité territoriale. C'est extrêmement important de fixer ce principe pour dire que les immixtions des pays étrangers sur le processus même des élections dans un autre État se retrouve évidemment en violation de ce grand principe de droit international public.
Maître, quand vous faites allusion au propos d'Herman Cohen, est-ce que vous voulez dire que la RDC est au centre d'un complot international?
Eh bien, je ne saurais pas le dire tout simplement parce que Herman Cohen est aujourd'hui âgé à peu près de 86 ans. C'est un ancien diplomate américain. Les États-Unis ont été eux-mêmes condamnés par la Cour internationale de justice dans l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Et donc, les États-Unis savent très bien que l'on ne peut pas faire une incursion militaire dans un autre État étranger pour régler un différend international ou un problème entre les États, surtout lorsqu'on évoque une problématique liée à l'organisation des élections. La seule exception qui est admise en droit international, c'est lorsqu'il y existe une situation avérée qui trouble la paix internationale. Ce n'est que dans ce cas exceptionnel que l'on peut imaginer à la condition qu'il y ait une résolution des Nations Unies. Mais en l'espèce, évidemment, la problématique de l'organisation des élections en République démocratique du Congo échappe totalement aux conditions d'intervention des États étrangers.
Il y a Modeste Bialungera Wakachuva qui nous écrit de Kinshasa qui dit « À mon humble avis, les autorités congolaises devraient comprendre que l'accord de la Saint-Sylvestre reste le seul viable pour se soustraire de toute forme de sanctions car ayant été repris en intégralité dans la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies, endossant ainsi un caractère contraignant qui du reste ne peut en aucun cas souffrir de l'inexécution par la mauvaise foi de la part du régime de Kinshasa, ce qui motive la France, les États-Unis, en complicité avec les pays voisins, pour faire respecter la résolution, l'accord n'étant plus une affaire privée de la classe politique congolaise, Maître Kilolo.
Eh bien, je voudrais simplement ici rappeler que l'organisation ou les fonctionnements d'une société comme la République démocratique du Congo, les attributions de ces institutions sont régies exclusivement par la Constitution, c'est-à-dire le pacte social de Jean-Jacques Rousseau. C'est extrêmement important de le rappeler et de rappeler ici que toutes les clauses de l'accord de la Saint-Sylvestre qui seraient contraires à la Constitution sont d'office frappées de nullité absolue ou en tout cas sont réputées inexistantes. Par exemple, lorsque l'accord de la CENCO décide de la création d'une institution d'appui à la démocratie, le CENSA, eh bien, la Constitution prévoit que seul le constituant ou une loi organique peut créer une institution d'appui à la démocratie et lui attribuer ses compétences.
Alors, Maître, la Constitution prévoit que le président Kabila ne doit pas briguer un troisième mandat et le président angolais n'a fait que répéter ce que tout le monde dit à haute et intelligible voix.
Eh bien, à cet égard, je dirais simplement que cette question me paraît aujourd'hui prématurée et sans intérêt dans la mesure où il n'existe pas dans la Constitution de la République démocratique du Congo de troisième mandat. Donc ça me paraît assez clair. Et donc, dans une présomption naturelle de bonne foi, merci, l'on ne pourrait pas spéculer là-dessus. Il me semble que ça n'appelle aucun autre commentaire que celui du constat d'un homme qui a répété à plusieurs reprises qu'il respecterait la Constitution.
Merci, Maître. Christian Mwando, comment vous avez reçu, honorable, toutes ces déclarations?
Oui, je pense que d'abord, je pense que de la part de M. Mende, c'est vraiment être culotté que de parler de la souveraineté de la RDC par rapport aux partenaires. Lorsque nous savons tous qu'il y a eu un hold-up de Kabila et son groupe sur la souveraineté du peuple congolais. N'oubliez pas que si nous en sommes là, c'est parce que Kabila n'a pas respecté la souveraineté du peuple congolais qui est le droit de se choisir ses dirigeants. Donc il y a eu un coup de force de Kabila qui fait qu'aujourd'hui nous avons un président qui n'a pas de mandat. Je suis un peu gêné pour Maître Kilolo quand il parle des autorités légalement établies. Il dit, lorsque les autorités légalement établies prennent des décisions, on ne peut pas s'ingérer. Aujourd'hui, il est clair et il le sait que nous n'avons pas d'autorité légalement établie.
Vous députés compris.
Nous députés compris, bien sûr. Parce que les mandats sont terminés par la volonté d'un homme et de son groupe, Kabila, qui a refusé d'organiser les élections, et nous, les G7 de 2014, nous l'avons mis en demeure d'organiser ces élections, ce qui n'a pas fait en confisquant la souveraineté du peuple congolais. Maintenant, venons-en aux faits. Aujourd'hui, la majorité, par la voix du porte-parole du gouvernement, parle de souveraineté. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes devant un groupe de personnes qui prend la République démocratique du Congo pour son poulailler, où ils peuvent assassiner, où ils peuvent torturer, ils peuvent emprisonner, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent ne pas organiser les élections, et le monde entier doit les assister comme spectateurs, parce que le Congo est devenu leur chose et les Congolais leurs esclaves. Je crois que ça suffit maintenant. Il est temps que ce groupe comprenne que le monde s'est réveillé, le Congo fait partie de l'humanité et il est temps que le monde s'organise pour voir ces gens qui se maintiennent au pouvoir par la force, parce que vous savez que ce n'est que par la force des armes, de la police et des services de sécurité que Kabila et son groupe se maintiennent au pouvoir jusqu'aujourd'hui sans aucune légalité. Si Kabila avait organisé les élections en décembre 2016, on n'en serait pas là. Donc la faute, la trahison du groupe de Kabila est déjà consommée. Si j'en viens, je voudrais en venir un peu, comme on dit dans la Bible, l'orgueil précède la chute. Aujourd'hui, on parle du Rwanda, on parle de l'Angola, on parle de Congo-Brazzaville, des autres qui veulent s'immiscer. Mais on oublie que aujourd'hui Kagame est le président de l'Union africaine, dont la RDC est membre. On oublie que Lourenço est président de la commission sécurité de la SADC, dont le Congo est membre. On oublie que la France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la RDC est membre. Et en quelle qualité des messieurs au niveau du Congo peuvent empêcher toutes ces personnes responsables des organisations dont le Congo est membre de discuter du Congo, parce que le Congo étant un état de non-droit est devenu une menace, y compris pour les pays qui nous avoisinent.
Honorable Mwando, il y a Ougen Mungwajoué, c'est un internaute qui dit « Les amis d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui, ainsi vice-versa. C'est un principe qui s'applique en politique internationale. Je pense que cette guerre est une histoire montée de toutes pièces dans le but de distraire l'opinion publique. Primo, Kigali et Paris sont considérés jusqu'ici comme les soutiens majeurs du président Kabila. Ils ne peuvent nullement s'est ligué contre son régime. Segundo, pourquoi la France, à qui le régime de Kinshasa a donné plusieurs avantages économiques, voudrait s'en prendre à son partenaire?
Mais écoutez, je crois que nous sommes devant des gens qui sont en train de prévenir une catastrophe internationale. Parce que la manière dont Kabila et son groupe sont en train de conduire ce pays risque de conduire, si on y prend garde, à une guerre civile. Et personne n'a intérêt à ce que cela n'arrive. Quelle est la faute de la France, de l'Angola ou du président de l'Union africaine de dire à Joseph Kabila et son groupe qu'il faut organiser des élections inclusives, apaisées? Parce que n'oubliez pas aujourd'hui que c'est l'exclusion des autres qui peut entraîner une guerre civile dans ce pays. N'oublions pas aujourd'hui que Kabila n'a pas respecté l'accord qu'il a fait signer, qu'il a signé lui-même par délégation, sous l'égide même de cette même communauté internationale. N'oubliez pas que Kabila est allé voir le pape pour qu'il y ait cet accord, et que c'est cette même communauté internationale qui avait convaincu l'opposition de ne pas recourir à la violence pour permettre que la transition se fasse en paix. N'oubliez pas aussi que c'est la première fois depuis l'histoire de ce pays que nous voulons une alternance pacifique. Et si cette constitution a été faite avec un mandat limité pour le chef de l'État, c'est pour éviter que les gens ne recourent à la force pour prendre le pouvoir. Malheureusement, Kabila l'a fait pour se maintenir au pouvoir, et cela, le monde ne peut pas l'accepter, et je trouve tout à fait normal la position prise par les partenaires internationaux.
Le ministre Mende a déclaré, je le cite, « Les connivences, les combinaisons et les tentatives de dépossession des Congolais au profit des groupes d'intérêt extérieur dans le but de promouvoir des besoins stratégiques des groupes d'influence en intelligence avec des prédateurs notoires, dont certains ont par ailleurs déchiré de manière ostentatoire et sans sourciller le brevet de la démocratie dans leur propre pays, ne saurait en aucune manière nous intimider. » Je m'arrête par là, fin de citation. Honorable Mwando, le Rwanda lui-même n'est pas un exemple en termes de démocratie.
Ne parlons pas du Rwanda. Ici, parlons du président de l'Union africaine qui a des obligations par rapport à la charte de l'Union africaine.
Aujourd'hui, et qui ne parvient pas à imposer la démocratie dans son propre pays.
Ça, il y a d'autres personnes qui doivent s'en occuper. Lui, il a un devoir et il le fait. Aujourd'hui, il faut considérer que M. Mende ne doit pas oublier sur quoi était assis le pouvoir de Kabila, comment Kabila s'est retrouvé aujourd'hui au Congo. Et aujourd'hui, M. Mende ne doit pas commencer à nous donner des leçons en cette matière, d'autant plus que il est illégitime, il est illégal.
Merci.
Et il n'y a aucun membre de la population qui peut suivre cette majorité qui est en train de la brimer.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, quelle est votre analyse en suivant toutes ces déclarations?
Et en fait, les déclarations de trois chefs de l'État constituent à la fois un avertissement, mais aussi une pression au pouvoir en place à Kinshasa. Et il s'agit là des pressions qui viennent s'ajouter sur d'autres, des nombreuses autopressions extérieures et intérieures. Et je crois que le développement de l'actualité au niveau national est tel que les gens de la majorité ont multiplié plusieurs déclarations, selon lesquelles Kabila, et si vous voulez, selon la Constitution, a le droit de se présenter aux élections. Et cette tendance, de l'intérieur, a suscité des réactions, notamment la réaction de la CENCO, et à l'extérieur, on attendait bien qu'il y ait également des réactions. Alors, là, pour comprendre mieux la réaction du gouvernement de Kinshasa, il faut bien écouter Herman Cohen qui a parlé quelques jours avant. Il a dit exactement ceci, que la nomination des juges à la Cour constitutionnelle entre dans le schéma de Joseph Kabila de modifier la Constitution et de rester au pouvoir. Mais les États-Unis d'Amérique ne le laisseraient pas faire et les pays de la sous-région qui sont contre ce schéma interviendraient en RDC pour déloger Joseph Kabila. Là, c'est une déclaration qui est claire. Alors, Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, a juste eu le réflexe de faire un lien entre les déclarations de Herman Cohen quelques jours avant et les déclarations de trois chefs de l'État. Et du coup, ça engendrait le courroux du gouvernement de Kinshasa.
Et donc, prof, il est, selon vous, on est loin de considérer que la RDC est au centre d'un complot international.
Moi, je ne parlerai pas d'un complot. Évidemment, vous savez que même le concept de souveraineté est généralement utilisé plus par ceux qui sont au pouvoir. Vous vous rappelez à l'époque de Mobutu. Mobutu avait également parlé de la violation de la souveraineté parce que, pour lui, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola avaient violé la souveraineté du pays. Et donc, les gens qui étaient de l'autre côté disaient qu'il n'y avait pas violation de la souveraineté. Et aujourd'hui, le même argument qui était pris par Mobutu sont aujourd'hui les arguments de souveraineté, évidemment, qui sont pris par le gouvernement qui est en place à Kinshasa. Et donc, vous avez là un argument qui est généralement pris par ceux qui sont au pouvoir. Mais moi, je suis Congolais et donc je suis fier de la souveraineté de la RDC. Mais pour que cette souveraineté, parce que vous avez parlé de droit international, pour qu'elle colle sur le concept de la paix, qui est un concept cher aux Nations Unies, il faut avoir affaire à ce que Fukuyama appelle état défaillant. Quand vous avez affaire à un état défaillant, il est très difficile d'appliquer cette souveraineté. Parce que il est tout à fait naturel que les Nations Unies, que le pays de la région, que la communauté internationale, sentant venir les dangers, se décident, nous n'allons pas laisser le pays aller vers la dérive. C'est un pays défaillant, un État défaillant, c'est un État dont on constate la faiblesse des institutions, la faiblesse sur le plan de son fonctionnement, et donc un État qui n'est pas en mesure d'assurer la paix. Et là, je voudrais parler...
Et qui risque d'embraser le neuf voisins.
D'embraser non seulement le voisin, mais toute la région. Et de ce point de vue, on ne les laissera pas aller tout droit vers l'abîme. C'est ce qui, d'ailleurs, Fukushima vous dit qu'il est quasiment difficile d'appliquer la souveraineté telle qu'elle est énoncée dans les instruments internationaux vis-à-vis des États voisins. Du coup, on a donc des États défaillants. Du coup, on a un autre regard qui est un regard différent de la souveraineté quand celle-ci doit être appliquée dans ces États dits États défaillants. Et quand vous regardez notre pays qui est véritablement un pays qui est en train de sombrer avec plusieurs dizaines de milices armées, un pays qui véritablement est au bord du gouffre avec plusieurs millions de déplacés, ça porte véritablement à croire que le pays, si la crise s'installe, eh bien, ça sera un chaos. Voilà pourquoi, de temps en temps, Fukushima, qui est un auteur très respecté, vous dit qu'il est très difficile, dans ces conditions-là, d'appliquer la souveraineté telle qu'elle a été envisagée au niveau du droit international à ces pays-là.
Alors, professeur, les trois chefs d'État, à leurs qualités respectives, Emmanuel Macron, membre du Conseil de sécurité, comme l'a dit l'honorable Mwando, João Lourenço, président de la SADC, Paul Kagame, président de l'Union africaine, la RDC serait-elle lâchée par ses partenaires?
Mais en fait, je ne dirais pas que la RDC est lâchée par ses partenaires, mais je crois qu'il y a une sorte d'inquiétude vis-à-vis de la situation en RDC. Une situation qui semble s'éterniser, parce que vous savez qu'en RDC, vous avez encore les troupes des Nations Unies qui sont présentes et qui sont là pour stabiliser notamment la paix. Et ici, il ne faut pas avoir une vision monolithique de la paix en termes d'absence de la guerre, mais il faut plutôt avoir une vision structuraliste, une vision globale, une vision holistique. On n'a pas la paix seulement quand on n'a pas la guerre. Mais parmi les critères qu'aujourd'hui on introduit dans le concept de paix, il y a non seulement le critère de respect des droits de l'homme, mais il y a aussi le respect des élections qui sont organisées sur une périodicité régulière, mais aussi sur le principe d'honnêteté. Et donc vous avez tous ces critères qui aujourd'hui, si vous voulez, participent à la construction de ce concept. Et quand vous regardez aujourd'hui, avec les questions électorales, on est tenté de penser que la RDC quitte ce navire de la paix et est en train de chavirer.
Et pourquoi cette inquiétude est-elle mal perçue à Kinshasa, prof?
Mais mal perçue à Kinshasa par qui? Par le pouvoir,
évidemment.
Par la population ou par l'opposition?
Le pouvoir, évidemment.
J'ai pu comprendre que notre ami de l'opposition avait une autre vision.
Absolument.
Ouais. Alors, c'est ce que je venais de dire. Quand on est au pouvoir, la souveraineté, vous devez la défendre par tous les moyens. Le jour où lui aura également le pouvoir, notre ami de l'opposition, il défendra la souveraineté.
Merci, professeur. Maître Aimé Kilolo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Kasaï oriental.
Bernard Kazadi, depuis la province du Kasaï oriental, le PPRD et la majorité au pouvoir n'ont pas su capitaliser et donner l'espoir à la RDC en faisant asseoir sa démocratie. On ne peut pas continuer à faire confiance à un pouvoir illégitime, illégal, et hors mandat et aussi non respecté des signatures de plusieurs accords signés entre différents acteurs politiques nationaux qu'internationaux. Le président Joseph Kabila n'a pas la volonté de faire passer le flambeau démocratique par passation des pouvoirs entre lui, le sortant, et le président nouvellement élu. Vu la grandeur de la RDC et les 9 pays voisins qui l'entourent, il est logique de décider et de faire des réunions à propos de la RDC, sans la participation du pouvoir de Joseph Kabila, parce qu'il dirige tout un continent par-dessus. Donc, c'est une bonne chose pour préserver la paix.
Maître Kilolo.
Je dirais tout simplement ici, c'est d'abord de rappeler les principes. C'est que l'article 71, alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, fait bien la différence autour de la notion de l'autorité légalement établie entre l'exercice du mandat présidentiel qui, à un moment donné, peut prendre fin parce qu'on arrive à la fin du mandat du chef de l'État, mais que par contre, en l'absence d'élections organisées jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, eh bien, l'exercice de la fonction présidentielle va au-delà de la fin du mandat présidentiel. Et c'est vraiment dans ce cas de figure que nous nous trouvons aujourd'hui, de sorte que nous n'avons pas d'autre choix que de constater...
Et qui a trouvé son appui sur l'accord de la Saint-Sylvestre.
Eh bien, en ce qui concerne la Saint-Sylvestre, je tiens à insister sur le fait que l'on ne peut pas substituer un accord privé entre quelques hommes politiques qui n'ont pas reçu un mandat du peuple à la Constitution. Le faire, ce serait finalement considérer que la Constitution est tombée en désuétude. Et si nous nous retrouvons dans ce cas de figure, c'est la porte ouverte à une assemblée constituante pour un nouveau pacte social en République démocratique du Congo. Il est tout à fait important que l'on sache où nous en sommes.
Et donc pour vous aujourd'hui, l'accord de la Saint-Sylvestre est caduc?
Eh bien, il faut simplement constater que l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas de force contraignante, ça n'a pas de valeur normative, c'est-à-dire que ça ne peut pas réglementer la problématique du processus de l'organisation et de la mise en œuvre des élections en République démocratique du Congo. Ça demeure ça n'a valeur que de simples recommandations, mais à charge de s'assurer à chaque fois que les différentes clauses sont conformes au pacte social, c'est-à-dire à la constitution de la République démocratique du Congo. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque l'on parle de la nécessité d'avoir des élections qui permettent d'inclure tout le monde, et lorsqu'on évoque autour de cela la notion de la décrispation, eh bien, il y a véritablement de problèmes qui se posent, parce que comment est-ce que un accord privé peut décider d'autorité de mettre fin à un certain nombre de poursuites judiciaires ou de relaxer des prisonniers qui sont aujourd'hui détenus sur base des jugements coulés en force des choses jugées. Le faire, c'est véritablement tomber dans un non-droit, c'est-à-dire c'est simplement décréter la fin de l'état de droit en République démocratique du Congo et considérer que le Congo n'est plus un état. Vous savez par exemple que la Constitution dans tous les états démocratiques prévoit que lorsque l'action publique est déjà mise en mouvement, c'est-à-dire que la personne est poursuivie, le tribunal est saisi, mais le juge lui-même a l'obligation de poursuivre jusqu'au bout, sinon ce serait un déni de justice pour lequel le juge lui-même se retrouverait condamné. Le principe de séparation de pouvoir de Montesquieu interdit au pouvoir politique d'interférer et de donner des injonctions au juge pour arrêter le cours d'un procès qui suit encore son cours.
Merci maître. Honorable Mwando, il y a pour vous cette réaction qui nous vient d'Oicha.
Donc à partir d'Oicha, à mon avis, le gouvernement congolais a pleinement raison de demander des explications. Les pays occidentaux doivent apprendre à respecter les autres pays du monde. Mais aussi, le président rwandais n'est pas un modèle de démocratie au monde, moins encore en Afrique. Et je pense que le président rwandais est en train de vouloir légitimer l'agression de notre pays qu'il est en train de préparer en se servant de la présidence de l'Union africaine. Quand la France soutient les dictateurs africains et les monarques du Moyen-Orient, on doute directement de sa sincérité. Le peuple congolais doit se méfier des propos du président rwandais et de son soutien français, car je me rends compte que c'est à notre défaveur.
Honorable Mwando.
Oui, j'aimerais bien dire à notre auditeur que une chose est claire. Si on en a né là, c'est la faute d'un homme, Kabila. Kabila a refusé d'organiser les élections dans ce pays. Vous avez suivi ce que Maître Kilolo est en train de dire ici. C'est-à-dire, il lui suffit de ne pas organiser les élections dans ce pays pour continuer, rester indéfiniment chef de l'État au détriment de la Constitution qu'on prétend défendre ici. Ici, n'entrons pas dans les débats des individus. Ici, il y a un risque majeur au niveau de la République démocratique du Congo. C'est le risque du chaos. C'est le risque de guerre civile. Parce que les gens, parce que Maître Kilolo parle de la justice. Moi, je ne parle pas de justice. La justice n'existe pas au pays, dans ce pays. La justice est caporalisée. C'est un instrument au service d'un individu qui est utilisé pour faire mal, pour emprisonner, pour maintenir captifs des citoyens de ce pays. Donc, si Kabila avait respecté la Constitution, les autres non. Et qu'est-ce qu'on reproche aux autres présidents de l'Union africaine et de la France? De demander à Kabila d'organiser des élections crédibles dans son pays? On leur reproche quoi? De demander à Kabila de respecter sa signature qu'il a mise dans l'accord de la Saint-Sylvestre.
Qui n'est qu'un accord privé, selon Maître Kilolo.
Mais selon Maître Kilolo, cet accord privé, c'est cet accord privé qui a permis de sauver la tête de Kabila en 2016, parce que, étant fin mandat, le peuple était décidé à le chasser. Mais c'est la même communauté internationale, pour éviter le chaos, qui a demandé qu'il y ait cet accord que Kabila n'a pas respecté aujourd'hui. Alors, arrêtons de nous focaliser sur des individus. Les autres ont demandé à Kabila de remettre au peuple congolais sa souveraineté en organisant des élections auxquelles tout le monde pourra participer. Ils ont demandé à Kabila de respecter sa signature et je crois que en faisant cela, il n'y a aucun mal. Pourquoi doit-on laisser une personne conduire un pays dans le chaos? Et lorsqu'on est là-bas, nous avons vu encore des images terrifiantes aujourd'hui, des chadaris en train de distribuer, de compter les billets de banque en public, en martyrisant la population. Ce sont des choses inacceptables.
Alors, honorable Mando, vous avez demandé qu'on individualise pas le débat, mais revenons à l'accord de la Saint-Sylvestre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il représente encore?
L'accord de la Saint-Sylvestre, c'était le seul cadre qui permet l'organisation des élections démocratiques dans ce pays. On ne veut pas que les gens restent à la tête du pays pour continuer à le piller et à le martyriser.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bolomba.
Joël Bongo Longondo depuis Bolomba. La République démocratique du Congo est membre de la communauté internationale du fait des traités et accords internationaux. De ce fait, elle a les obligations de respecter les principes qui s'imposent à l'ensemble des nations civilisées en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de protection des valeurs fondamentales inhérentes à la vie humaine. Ainsi, face à l'instabilité politique née de suite de la non-organisation des élections qui pouvait faciliter l'alternance démocratique réclamée, il était temps que la communauté internationale prenne les choses en main car les processus de conciliation sur le plan interne ont échoué, les accords politiques ont été violés à dessein. Nous sommes donc dans un cas type d'ingérence humanitaire permise et c'est ce que font la France, l'Angola et le Rwanda avec et la SADC, l'Union africaine et l'ONU.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Jimmy Faliala qui nous écrit de Goma qui dit « En demandant des explications supplémentaires, le gouvernement congolais vient envenimer le doute qui plane sur l'organisation des élections le 23 décembre et le respect de la Constitution par le président Kabila en s'abstenant de briguer un troisième mandat inconstitutionnel. »
Bon, en fait, en choisissant ce moment, mais aussi le pays comme le Rwanda et l'Angola, qui ont joué un rôle très important dans la chute du régime Mobutu, eh bien, la France, la communauté internationale, sait exactement ce qu'elle faisait. Et ils savent que ce que la majorité appelait la messe va avoir certainement à faire réfléchir le pouvoir qui est à Kinshasa. C'est des acteurs très importants dans la région. Et quand ils vont joindre leur voix à celle de la France, je crois que nos amis de la majorité vont certainement essayer de reculer un peu, à réfléchir sur les nouveaux stratagèmes à mettre en place. Il ne s'agit pas uniquement de voir la chose uniquement sous l'angle du droit international. Non. Il y a là, de mon point de vue, un message clair, une pression, un avertissement. Et il faut le prendre au sérieux. Il s'agit aussi, parce que beaucoup de gens reviennent sur la souveraineté, l'idée ici c'est que il ne faut pas seulement avoir à sauvegarder la souveraineté. Non, il faut aussi réunir les moyens pour parvenir à cette souveraineté. Le fait pour la RDC de continuer à être un pays fragile l'expose davantage, l'expose à l'ingérence. Nous devons construire la puissance. Nous devons construire économiquement, politiquement nos institutions. Nous devons avoir des institutions solides. Toutes les gymnastiques auxquelles on se livre pour le moment n'aboutissent qu'à l'affaiblissement des institutions et donc l'affaiblissement du pays et la fragilisation à outrance de la RDC.
Alors, professeur, comment vous entrevoyez la suite et du processus politique et du processus électoral en RDC après de telles déclarations?
Alors, après ces déclarations, on regarde vers les acteurs, voir quels sont les schémas qu'ils vont mettre sous la table. Est-ce que nous allons aller vers la matérialisation des déclarations récentes de nos amis de la majorité, dans le sens de dire Kabila aura un troisième mandat? Est-ce qu'ils vont dire, ok, abandonnons ce schéma, tournons-nous vers un schéma Dauphina? Et donc, on est là en train de regarder qu'est-ce que les acteurs vont nous proposer. Sans oublier qu'il y a d'autres acteurs importants qui font également la pression, notamment la CENCO, notamment les CLC, notamment l'opposition. Et donc, on est là devant une incertitude du lendemain.
Maître Mekilolo, pourquoi la majorité présidentielle donne l'impression de ne pas comprendre les inquiétudes exprimées par les autres États de la sous-région?
Eh bien, à cet égard, je voudrais m'exprimer en deux volets. Le premier volet, c'est d'abord de dire que c'est que au-delà de la République démocratique du Congo, mais c'est que tous les experts parmi les plus avisés attendent du président Kagame en sa qualité de président de l'Union africaine, mais c'est de respecter la charte, l'acte constitutif de l'Union africaine en son article 4 qui interdit un État africain membre de l'Union africaine de s'ingérer dans les affaires intérieures et surtout dans des questions liées à l'organisation des élections d'un autre État africain. Deuxième chose, je voudrais aussi souligner que la déclaration du président français, le président Macron, qui a été faite unilatéralement en dehors du cadre des Nations Unies, n'engage pas la communauté internationale, se trouve plutôt en violation de l'article 2 de la même charte des Nations Unies. Cela étant dit, il faut aujourd'hui constater que le processus électoral est en cours. L'enrôlement des électeurs est achevé. Nous avons un corps électoral. Le calendrier électoral a été publié par la CENI. Les gouvernements sont en train de décaisser régulièrement les moyens.
Merci.
La loi sur la répartition des sièges ayant été promulguée
par le chef de l'État. Il n'y a pas de raison de s'affoler.
Eh bien, il y a lieu de se concentrer aux élections qui sont prévues, en tout cas pour le 23 décembre prochain, et éviter par des subterfuges de se retrouver dans une situation qui risque de nous amener dans un cas de force majeure, empêchant la tenue des élections dans le délai. Donc il appartient à tous les États, à tous les hommes politiques de se concentrer et de soutenir le calendrier électoral de la CENI.
Mais honorable Moando, comment vous entrevoyez la suite et du processus politique et du processus électoral après ces déclarations?
Je pense que ces déclarations sont à soutenir parce que c'est la confiscation du pouvoir par Kabila, la violation de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre qui sont à la base de la déstabilisation de la région et qui fait courir un risque de guerre civile en République démocratique du Congo. On demande simplement à Kabila et son groupe d'organiser des élections inclusives et transparentes, ouvrir l'espace politique et arrêter d'instrumentaliser la justice avec des procès bidons pour permettre au pays d'avoir une transition, une alternance pacifique, parce que le peuple congolais a le droit souverain de voter, de choisir ses dirigeants et de se construire un nouvel avenir. Ce n'est pas par la faute d'un homme et de son groupe qu'on doit bloquer le destin de tout un pays. Et lorsque ce pays est pris en otage, lorsqu'il y a les tueries, lorsqu'il y a l'injustice, le monde doit s'occuper du Congo et nous demandons tout simplement qu'on ouvre l'espace politique et qu'on organise des élections inclusives et transparentes et ça ne sera que justice.
Mais vous avez suivi Maître Aimé Kilolo qui dit que le processus électoral suit son bonhomme de chemin. Qu'est-ce qui vous effraie?
Mais le processus électoral ne suit pas son bonhomme de chemin. Nous avons toujours nos amis qui sont captifs. Moi, on ne les appelle pas des prisonniers. Ce sont des captifs avec la complicité d'une justice instrumentalisée qui sont captifs en prison. Il y a toujours les procès bidons. Il y a toujours les interdictions des manifestations à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul parti politique dont le chef peut circuler à travers tout le pays. Les manifestations de Ensemble et des autres partis politiques à l'intérieur du pays sont dispersées, interdites. Il y a les corps de notre leader, Tien Tshisekedi, qui est toujours à l'extérieur. Il y a des confiscations même des corps. Merci. Vous pensez qu'avec ça, on peut aller à des élections apaisées? Je pense que non. Kabila doit libérer la démocratie pour qu'on ait des élections le 23 décembre et que le peuple puisse choisir ses nouveaux dirigeants.
Merci. Professeur Félicien Kamamba, que faut-il pour qu'on en arrive à des élections apaisées?
Il faut d'abord que la majorité essaye de réfléchir deux fois et arrête les discours qui tendent à donner la possibilité à Kabila d'avoir un troisième mandat. Et je crois que trouver une autre alternative aiderait à sortir de l'impasse. Parce que pour le moment, tous les Congolais sont dans l'incertitude. Non seulement les Congolais, mais tous ceux qui habitent la RDC sont dans une incertitude. Et il n'y a aucune lueur d'espoir, en tout cas, que demain ou après-demain, eh bien, cette crise va s'arrêter un jour. Il n'y a que par la négociation, par le respect des textes, par le respect des accords, que nous pouvons sortir de l'impasse.
Merci, monsieur. Cette émission est terminée. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.